Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes le matin du 10 juillet 1973 sur la Piazza Navona à Rome, quand John Paul Getty, troisième du nom, le petit-fils du milliardaire Jean-Paul Getty, se fait kidnapper. Quelques jours plus tard, sa mère reçoit le message suivant. « Chère maman, je suis tombé entre les mains de ravisseurs, ne les laissez pas me tuer. » Pour libérer le jeune garçon âgé de 17 ans, les malfrats exigent 17 millions de dollars, c'est énorme. Comment réunir une somme pareille? Immédiatement, on fait appel à Jean-Paul Getty, le grand-père richissime. Mais figurez-vous que ce dernier refuse de payer la rançon. « J'ai 14 autres petits-enfants. Si je paye un centime, ils se feront tous enlever », avance-t-il comme explication. Les parents le supplient à genoux. Mais Jean-Paul Getty est catégorique. Jusqu'à ce que les kidnappeurs, perdant patience, découpent une oreille de l'otage pour l'envoyer à un journal local. Commencent alors de longues négociations et la rançon est abaissée à 3,2 millions de dollars. Jean-Paul Getty accepte d'en donner 2,2 car c'est le montant maximum pour faire déduire de ses impôts.
Oh la classe.
Il pense et à accrochez, tout le vieux. Accrochez-vous bien.
Ah oui.
Il prête la somme restante à son fils avec un taux d'intérêt de 4%. Quand l'adolescent traumatisé est relâché, il appelle son grand-père pour le remercier, mais le vieil homme refuse de lui parler. Il lui en veut de s'être mis dans une telle situation et de lui avoir coûté autant d'argent. Ah, vous l'avez compris, Jean-Paul Getty n'est pas un homme commode. Revenant aux origines, quand il voit le jour en 1892, son père, Georges Getty, est déjà un homme riche qui a fait fortune dans le pétrole aux États-Unis. Dès son adolescence, Jean-Paul Getty travaille dans l'entreprise familiale où il acquiert d'ailleurs une précieuse expérience de terrain. Bien vite, il devient évident que Jean-Paul Getty a le génie du pétrole. Il développe l'entreprise familiale, la Getty Oil Company, et devient multimillionnaire à 24 ans. Mais l'argent ne fait pas le bonheur, n'est-ce pas? Et dans la famille Getty, on ne peut pas dire que l'ambiance soit très joyeuse. Jean-Paul s'entend très mal avec ses parents, des Américains traditionnalistes, un poil austère. Jean-Paul Getty mène grand train, collectionne les femmes très jeunes, parfois même mineures. Son mode de vie dissolu scandalise tant son père Georges qu'à sa mort en 1930, il le déshérite, ne lui laissant qu'une infime somme d'argent et un tiers seulement de la société. C'est une terrible blessure d'orgueil pour Jean-Paul Getty qui, à bientôt 30 ans, se plonge dans le travail. Désormais, il n'a plus qu'une idée en tête. Faire de l'argent, toujours plus d'argent et en quelque sorte battre son propre père. Entre 1930 et 1950, Jean-Paul Getty bâtit un empire. En 1949, il signe un coup magistral en négociant avec le roi d'Arabie Saoudite le droit d'exploiter un territoire entre le royaume saoudien et le Koweït, d'où il extrait l'or noir. En 1957, le magazine Fortune l'intronise homme le plus riche d'Amérique et en 1966, le Guinness Book des records le place parmi les personnalités les plus riches du monde. En plus du pétrole, Jean-Paul Getty investit dans l'hôtellerie, les médias. Sa fortune semble illimitée, mais en même temps qu'il s'enrichit, Jean-Paul Getty devient, il faut bien le dire, de plus en plus radin. Terrifié à l'idée qu'on puisse lui prendre une partie de son pactole, il se méfie de tous, même de sa famille dont il s'éloigne. Arthur Buchwald, un humoriste américain très connu, qui a connu Jean-Paul Getty, dira qu'il ne s'intéressait à aucun de ses enfants. Il n'en parlait jamais avec fierté. Alors qu'il est riche comme Crésus, il ne verse à ses ex-femmes, en tout il s'est marié 5 fois, qu'une maigre pension alimentaire. Pire, alors que son plus jeune fils est atteint d'une tumeur au cerveau, Jean-Paul Getty reproche à son épouse le montant des frais médicaux. Et quand elle cherche à adoucir les derniers mois du garçonnet de 12 ans en lui offrant un poney, Jean-Paul Getty refuse de payer la note. Totalement absent, il ne fait même pas une apparition à l'enterrement de son fils en 1958. Ses enfants, sa famille, Jean-Paul Getty n'en a cure. La seule chose qui l'intéresse, c'est son argent et la manière dont il peut égoïstement en profiter. Dans une ville, il y a toujours le meilleur hôtel, la meilleure chambre et quelqu'un pour l'occuper. Et ce quelqu'un, c'est moi, aurait-il le coutume de dire. En revanche, Jean-Paul Getty a beaucoup de mal à dépenser son argent pour les autres. Dans les années 50, il s'installe près de Londres, à Sutton Place, un manoir anglais de style Tudor, doté de plus de 70 pièces, 27 chambres, un parc immense. La demeure est impressionnante, on peut le dire. Mais le plus surprenant, c'est que le château est aussi pourvu de téléphones à pièces dont les invités sont priés de se servir en cas de besoin.
C'est pas possible.
Difficile de faire plus radin. On raconte que même le salaire du gardien est fixé par le nombre de fois où il ouvre et ferme la porte dans le mois. Des gripsous comme Jean-Paul Getty, on en connaît peu. Quand il répond à une lettre, il écrit sa réponse dans la marge et renvoie le message dans son enveloppe d'origine. On dit aussi qu'il dispose d'une suite à la Neo Claridge, dont il n'a jamais réglé la facture. Le seul domaine dans lequel Jean-Paul Getty accepte de dépenser de l'argent, c'est l'art. Et encore, son intérêt pour les objets de collection commence pendant la grande crise économique de 1930, lorsqu'il s'aperçoit qu'il peut les acquérir pour une fraction de leur valeur. En fait, ce que Jean-Paul Getty préfère dans l'art, c'est de faire une bonne affaire. Il possède des peintures des plus grands maîtres, des Rubens, des Titiens, des Renoir, des Degas, des Monet. Mais comme il le dira son ami Lord Bedford, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment regardé ses œuvres et vu combien elles étaient belles. En 1976, c'est entouré d'œuvres inestimables mais délaissées par ses proches que Jean-Paul Getty, premier du nom, meurt dans son château anglais. Comme un dernier mauvais tour à sa famille, il ne leur laisse presque rien. Le milliardaire préfère léguer son milliard de dollars, qui équivaut aujourd'hui à 2 milliards, au musée qu'il a fait ériger à Malibu sans l'avoir jamais visité.
Europe 1, historiquement vôtre.